Sotrevoix de la presse.
Plus on apprend, plus on ne sait rien.
Une émission présentée par Jocelyn Perret.
On nous informe vraiment sur rien.
Bonjour, aujourd'hui dans les autres voix de la presse, nous recevons Joanne. Bonjour Joanne.
Bonjour.
Tu viens nous présenter le journal Le Curseur, c'est un semestriel. Le numéro 4 est paru en décembre 2024, le numéro 5 paraît ces jours-ci. Peux-tu nous expliquer Curseur, quand ça a été créé, comment, pourquoi ?
Alors Curseur, c'est un journal papier qui est édité par une association belge qui est basée à Bruxelles qui s'appelle Tactique. Et donc voilà, là on est au numéro 4 et ça va faire donc maintenant à peu près 2 ans que ça existe. C'est un journal qui est édité donc par l'association, qui est très largement aussi coordonné et produit par un collectif de personnes bénévoles qui participent au journal. Et donc c'est un journal voilà, qui s'attarde sur les questions du numérique, sur ce que produit le numérique dans nos sociétés, les changements qui en découlent, tous les enjeux qu'il peut y avoir du point de vue politique, géopolitique, du point de vue éthique aussi. Et donc voilà, c'est tout ce qu'on essaie d'explorer un petit peu à chaque fois à travers un dossier. On avait commencé par les smartphones pour le numéro 1. Le numéro 2, c'était autour de l'éducation. Le numéro 3, c'était autour de la gratuité, donc d'essayer de questionner le modèle qui est dominant souvent dans les services numériques auxquels on a affaire, donc qui sont des services gratuits, donc c'était interroger un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière cette gratuité. Et là, le numéro 4, c'est attardé donc, sur la matérialité du numérique, donc voilà, peut-être on en parlera un peu plus précisément par la suite, je ne sais pas.
Oui, on va essayer un peu de développer la ligne éditoriale et les thématiques qui sont abordées. Comme vous dites dans l'édito du numéro 1, ces dossiers abordent une problématique principale autour de la question du numérique. Vous donnez beaucoup d'informations. Est-ce afin que ces questions soient prises en main par le public et qu'il y ait un débat sur leur développement ?
Oui, mais c'est... en fait, il y a un peu deux choses là-dedans dans nourrir une réflexion autour du numérique. Donc ça se passe au niveau de la production du journal, parce que c'est un journal qui, disons, qui se développe dans le milieu de ce qui s'appelle en Belgique l'éducation permanente, ce qu'on appellerait en France l'éducation populaire. Donc c'est aussi en fait de voir la réalisation collective de ce journal comme aussi en fait un espace de réflexion, d'échange. Les gens qui participent à ce journal n'ont pas, disons, l'écriture comme pratique ou comme métier. C'est souvent par là que viennent se développer des réflexions, viennent s'affirmer des réflexions en participant, disons, au journal. Et après, plus largement, on essaie, disons, envers le lectorat, d'avoir aussi, tant dans l'écriture, d'essayer de faciliter l'accès, en fait, à une réflexion qui est quand même des fois assez pointue autour du numérique, autour de ces enjeux. On essaie à la fois de le rendre le plus populaire, le plus grand public, disons, mais voilà, sans céder à la facilité.
Avec l'article « Penser l'impensable », il est question d'une échelle microscopique de cette infrastructure gigantesque en forme de toile d'araignée qui parcourt le monde avec ses réseaux de câbles.
Oui, mais c'était vraiment d'essayer de pointer le paradoxe qu'il peut y avoir dans la manière dont peut être perçu, dont peut être pensé le numérique et dont il peut être vendu dans sa légèreté, dans lequel on pense très rarement à la matérialité même de ce qui permet simplement de passer un appel, de recevoir un mail, quelque chose comme ça. Donc un des enjeux du dossier, c'était d'essayer de faire exister les matérialités du numérique, donc de l'infiniment petit à aussi des réseaux qui s'étendent à des échelles mondiales, à l'échelle de la planète, les câbles sous-marins, puis des câbles sous-marins jusqu'à dans nos poches, le téléphone, et dans le téléphone, des circuits imprimés très très fins, qui sont voilà, des techniques très très fines. Donc c'était faire exister ces différentes échelles, ces différentes aussi strates de compréhension de ce que peut être matériellement le numérique, quoi.
C'est impressionnant justement, ne serait-ce que cet article sur les chiffres, les comparaisons qui nous permettent de voir à quoi tout cela correspond. C'est vrai que c'est tout un univers qu'on découvre et qui permet de mieux comprendre cette matérialité. On n'a pas du tout conscience quand on est juste devant son écran. Il y a aussi toute cette matérialité qui est en lien avec les matières premières, tout ce que ça génère, tout ce que ça demande comme matière première et comme quantité d'eau.
Ouais, ben ça c'était quelque chose qu'on essaie de faire. C'est aussi d'essayer de raccrocher ce que produit le numérique aussi sur dans des cas très pratiques, même dans des situations enfin très locales. Donc là, par exemple, il y avait le cas de l'installation d'un data center dans la région. Alors, je crois que c'était près de la ville de Namur, en Belgique, ou encore une fois, ou encore sur l'installation et le développement d'usines dans la région de Grenoble. Donc de voir aussi quels effets ça produit sur un territoire, tant autour des conflits d'usage qu'il peut y avoir autour de l'eau, autour de l'énergie, et de voir aussi d'essayer de traiter ce sujet du numérique, pas de manière, disons, théorique, mais aussi voilà, se pencher très pratiquement, qu'est-ce qui se passe près de nous, quelle influence ça peut avoir sur notre vie aussi très matérielle, donc des questions d'eau, des questions d'énergie, ça c'est quand même assez palpable, quoi.
Oui, ce sont des ordres de grandeur qui nous sont inimaginables, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. En France, on a le Postillon à Grenoble qui souvent nous tient un peu au courant de ce qui se passe justement dans le bassin grenoblois, qui est un des fleurons en France des biotechnologies, du numérique. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis abasourdi par les quantités d'énergie et d'eau qui sont nécessaires, ne serait-ce que pour faire tourner un seul data center.
Oui, c'est de voir que voilà, pour créer tous ces appareils, tous les dispositifs du numérique, derrière, à chaque fois, ben, il y a toute une chaîne de valeur, toute une chaîne de production. Donc ça va de l'extraction de ces minerais jusqu'à leur raffinage, la conception des circuits, les conceptions logicielles, enfin de voir que c'est une chaîne comme ça très très complexe qui s'étend voilà, un peu partout dans le monde. Alors, c'est de se dire que derrière chaque appareil, dans chaque dispositif qui compose ce monde numérique, ben en fait, il y a quand même toute une industrie qui est dépendante à la fois de certains pays qu'on situe plutôt dans le sud global, de voir qu'il y a un rapport d'exploitation pour l'accès aux minerais qui sont essentiels au numérique, de voir que toute cette chaîne d'approvisionnement charrie des quantités absolument démentielles de matière, nécessite une quantité d'énergie à chaque étape du travail, que ce soit au niveau du raffinage des minerais jusqu'à la production des puces, leur transport, etc.
Toujours en lien avec le numéro 4, donc sur la matérialité du numérique, il y a un article pour en finir avec le mensonge du siècle qui est la dématérialisation. Parce que, en effet, c'était une des promesses du tout numérique de dématérialiser, mais en même temps de faire des économies de papier, d'énergie. Mais il semblerait au final que ce soit le contraire, que nous n'avons pas conscience de tout ce que le numérique génère comme consommation.
Donc oui, ce mensonge, il est aussi accentué par la manière dont très concrètement le numérique est produit. C'est que on n'a pas toujours tellement les usines sous le nez, de voir que souvent la matière qu'on ne va pas avoir entre les mains, on va pas avoir le ticket de caisse entre les mains, mais de voir tout ce qui rend possible que simplement notre ticket de caisse soit stocké sur un serveur qui transite d'un serveur à l'autre, qui soit sauvegardé, etc. Tout ça suppose un dispositif matériel très très concret, que ce soit le data center avec du coup toutes les machines qui sont dedans, tous les serveurs qui sont dedans, les kilotonnes de béton qui ont été coulées pour faire le data center, et de voir voilà, qu'il y a une sorte de déportation de la matière qui est faite et voilà, qui participe à ce paradoxe, ce mensonge, on pourrait dire, oui. Il y a un article aussi qui ouvre, je crois, le numéro, qui s'appelle Ce petit nuage bleu, et qui revient aussi sur la manière dont l'industrie a produit une certaine série d'images, donc par exemple le nuage pour le cloud, de voir ça comme un stockage qui serait comme ça immatériel. On mettrait nos fichiers quelque part, mais finalement qui vient un petit peu masquer finalement ce qui se produit réellement et voilà, ce que ça suppose.
Ce que vous critiquez également, c'est le fait que derrière tout ça, justement, il y a le système capitaliste, il y a les GAFAM, mais il y a également des alternatives. Alors, j'ai pas tout, tout, tout compris parce que quelquefois c'est un peu technique pour moi, mais on peut avoir des alternatives autant à domicile par rapport à l'usage de son ordinateur, en choisissant des logiciels libres, mais il y a également des réseaux internet qui pourraient être collectifs, qui pourraient permettre de sortir du réseau des GAFAM.
Oui, alors attends, là tu fais référence à l'article sur de Neutrinet, c'est ça?
Oui, c'est ça, entre autres, sur l'Amérique du Sud, sur toutes les approches, le Código Sourd par exemple, et puis ce qui était aussi Rise Up, Proton Mail.
sur Neutrinet, je saurais pas, vraiment, je saurais pas exactement comment te répondre. Par exemple, on pourrait parler un petit peu, enfin, sur la dimension, disons, alternative au numérique, c'est que l'association, du coup, Tactique, qui édite le journal aussi, ben, accompagne des associations dans une transition aussi de sortir des GAFAM pour ensuite trouver des solutions, disons, plus éthique et surtout voilà, se défaire de très grosses entreprises, essayer aussi de... Mais c'est... Donc ça pourrait être un peu là-dessus, c'est aussi on utilise des logiciels libres pour faire le journal, ça c'est une piste, mais ce serait peut-être pas très intéressant à dire. Mais autour de Neutrinet, ben, je pense que je vais pas pouvoir en dire grand-chose de très intéressant et de très précis sur Neutrinet ou sur Código Source, que j'ai plus précisément les articles en tête.
Dans ce numéro 4, par rapport à la question de la matérialité du numérique, quelles seraient un peu vos solutions, vos approches? Est-ce que ce sont des approches qui doivent être portées par les individus dans leur mode de consommation? Ou est-ce qu'il faut penser à une sortie du numérique totale ou partielle?
Pour ce qui est de la dimension aussi finalement politique de la technique et la possibilité de changer les choses telles qu'elles sont, on croit, j'ai l'impression assez peu à l'action vraiment individuelle, éclatée, de dire c'est chacun dans son coin qu'on va changer les choses. Alors sur les solutions pour sortir de tout ça, il y a par exemple du coup l'association qui édite le journal qui s'appelle Tactique. Elle accompagne des associations, des structures qui cherchent à sortir finalement de ces grandes entreprises qui centralisent énormément de services. Donc on n'est pas, j'ai l'impression qu'on n'est pas tellement dans une démarche d'inviter individuellement les gens à changer, de voir que ces changements pour qu'ils soient vraiment effectifs, bah, il faut s'organiser, faire ça collectivement, parce qu'il y a aussi toute une partie, disons, quand même assez technique. Donc l'idée, c'est pas non plus que la technique soit un frein, c'est de voir que tout le monde n'a pas à prendre en charge ce savoir, que c'est des choses qui doivent, pour pouvoir être efficaces, doivent être partagées. Donc c'est vraiment plus autour... J'ai l'impression de l'entraide. S'il y a du changement à faire, ce sera plutôt autour à s'entraider, pas spécialement que tout le monde sache comment tout fonctionne. C'est pas l'idée. Et sur ce qui est de sortie du numérique, c'est vrai qu'après avoir fait, disons, on peut pas dire le tour, mais après s'être penché quand même sur la question spécifique de la matérialité du numérique, il n'est pas évident de trouver vraiment, disons, un avenir désirable à cette trajectoire-là, de voir, voilà, on l'a dit plus tôt, toutes les pollutions, toutes les pollutions en fait qui sont engendrées, l'énergie qui est demandée pour faire fonctionner ce système-là, paraît pas soutenable. Et donc finalement, oui, c'est quelque chose à adresser, à interroger, cette question-là de la dénumérisation, de la sortie du numérique et comment faire.
Parmi les alternatives que vous proposez, il y a l'expérience sud-américaine de souveraineté technologique, mais il y a également des logiciels, des services qui permettent de communiquer de manière sécurisée. Il y a également une approche de designer qui, eux, essaie plutôt de réduire l'impact, entre guillemets, de chaque ordinateur, de chaque téléphone. Il y a une sorte de volonté, quand même, une prise de conscience qui se fait sur ces impacts du tout numérique.
Donc oui, ça c'est un collectif c'est les designers éthiques, donc qui sont actifs pas mal en France et aussi en partie en Belgique. Et donc voilà, qui essaient de réfléchir à l'éco-conception des sites web. Donc ça va être aussi, enfin des sites, enfin du numérique, des applications et des sites web. Et donc là, c'est donc voilà, d'essayer d'imaginer des marges de manœuvre pour faire en sorte que... Par exemple, pouvoir imaginer des pistes, par exemple, pour faire fonctionner des outils, par exemple un téléphone, de se dire, ah tiens, si le bas du téléphone n'est plus fonctionnel, s'il est cassé, est-ce qu'on pourrait pas imaginer des systèmes qui feraient en sorte que tout le téléphone soit utilisable juste sur la partie supérieure du téléphone. Donc essayer d'imaginer comment aussi on peut venir accompagner des fois la détérioration matérielle des outils, des ordinateurs, des téléphones. Donc voilà, essayer de réfléchir un petit peu à la fin de vie, comment aussi accompagner du point de vue au niveau logiciel cette fin de vie. Et donc aussi, designer éthique accompagne du coup des structures, des entreprises pour essayer, disons, d'éco-concevoir les espaces numériques. Mais après, ils sont aussi bien conscients que finalement, la dimension logicielle du numérique représente finalement assez peu dans la balance. Et que donc voilà, ça laisse une petite marge de manœuvre, mais ça ne fait pas tout.
Dans le numéro 4, il est également donné un exemple de cas d'utilisation d'Internet et de pratiques collectives qui permettent de fournir des accès. C'était pour équiper des sans-papiers en région bruxelloise.
Oui, donc ça c'est un article autour de ce que peut faire l'association Neutrinet qui donc intervient dans des occupations de personnes sans papier en région bruxelloise. Et donc la réflexion qui était faite, c'était dans la poursuite du droit au logement, donc voilà, trouver un toit pour ces personnes, c'était aussi de voir Internet, de le concevoir au même titre que peut être l'eau et l'électricité. Donc pas spécialement de dire que c'est totalement vital, mais ça l'est devenu du fait aussi de la nécessité d'Internet pour accéder à un certain nombre de services publics, la nécessité d'avoir un accès Internet stable pour ne serait-ce que les enfants puissent suivre leurs cours.
Comment est-ce que vous travaillez au sein de Curseur ? Vous réagissez à l'actualité en prenant le temps de commenter, ou est-ce que vous avez déjà plus ou moins établi plusieurs dossiers à l'avance sur lesquels vous allez travailler ?
Ça se fait de manière très très organique, c'est pas évident. On peut pas dire qu'on se cale tellement sur l'actualité. Comme oui, le journal paraît deux fois par an. Comment on fait ? Simplement, on se réunit, on voit un petit peu ce qui vient. On est en plein bouclage actuellement, donc ce sera à chaque fin de numéro, on annonce la couleur du prochain, donc on annonce la thématique. Donc là, ce sera le numérique c'est la guerre, le numérique c'est la paix, qu'est-ce qui nous fait l'aimer, qu'est-ce qui nous fait le détester. Donc ça va pas mal se pencher sur la question du numérique, mais là plus dans le domaine de l'armement, de la surveillance. Donc ça va pas spécialement être très très joyeux, mais voilà, aussi on s'efforce d'essayer de trouver des aspects positifs au numérique, de voir aussi que finalement si on s'est penché sur la question, c'est peut-être on avait quand même un intérêt. Il y a plein de côtés assez positifs au numérique, au niveau culturel, au niveau des échanges, au niveau social, mais voilà, de voir aussi qu'il y a un peu un côté irréductible, ce côté néfaste qui est un peu irréductible aussi.
Alors, comment est-ce qu'on peut se procurer Curseur ? Par abonnement ? Est-ce qu'il y a une diffusion dans des maisons de la presse en Belgique, en France ?
Alors, Curseur est diffusé en région bruxelloise. Il est possible, après, en étant en France, en Belgique ou en Suisse, de souscrire à un abonnement. Donc, pour pouvoir recevoir les deux prochains numéros. Il est possible aussi de commander les numéros précédents. Je précise juste qu'il ne faut pas être pressé parce qu'on est une équipe de bénévoles et donc c'est pas évident toujours de faire des envois réguliers. Donc si vous commandez un numéro il ne faut pas être pressé quoi. Mais ça viendra.
Curseur, c'est imprimé à 5000 exemplaires, il me semble, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, c'est imprimé à 5000 exemplaires.
Et comment ça se passe après ? Ça s'autofinance ? Vous êtes tous bénévoles ?
Pour le moment, le journal est produit sur les fonds propres de l'association qui l'édite, donc Tactique. Les abonnements couvrent une partie des frais, mais finalement une partie vraiment assez, assez réduite. On est dans l'attente de financements publics en Belgique, des financements pour ce qui s'appelle donc l'éducation permanente, donc l'éducation populaire. Donc il y a des fonds spécifiques qui soutiennent ce type d'initiative. Il y a toute une série en région bruxelloise et en Belgique plus francophone, toute une série en fait de publications associatives, de journaux associatifs qui existe sur ce mode-là avec un financement public. Donc nous, pour le moment, on n'est pas financé, on n'est pas subsidié. On espère l'être un jour.
Bon, j'en profite aussi pour passer le bonjour aux copains et copines de Médor et puis du journal de proximité Le Pavé des Marolles à Bruxelles que nous avons déjà reçu dans les autres voies de la presse. Le prochain numéro donc de Curseur sort en juillet. Merci beaucoup pour ta disponibilité, Johan. À tout bientôt.
Merci à toi.
Les autres voix de la presse, une émission réalisée par mon papa.
Mais finalement, le présent, la brèche entre le passé et l'avenir.
La brèche.
Et c'est dans cette brèche que pousse, d'une certaine manière, la fleur de la liberté.
Journal libre et indépendant, d'enquête, analyse et reportage. Numéro 12, enquête sur la géo-ingénierie. Fuite en avant, bombe à retardement.
2024 a marqué un nouveau record de chaleur, avec une température mondiale excédant d'1,5 degré celle de l'ère pré-industrielle. Que faire face à ce constat ? Changer nos modes de vie et adapter nos modèles économiques ? Quelle idée étrange et réductrice !
La géo-ingénierie propose un avenir bien plus enthousiasmant, régler le problème grâce à l'innovation technologique pour ne rien changer dans le fond.
Les caprices de la nature qui laissent, faute de pluie, des régions dépérir de sécheresse sont peut-être sur le point d'être corrigées.
L'ambition de contrôler le climat n'est pas nouvelle. En 1961, déjà, le scientifique français Henri de Sens concevait le météotron.
Pareil à fabriquer les nuages. L'air surchauffé, aspirant l'air humide ambiant à 20 km à la ronde, va s'élever à 100 ou 200 km à l'heure jusqu'aux zones d'air froid et sec où va s'opérer la condensation qui fera naître un cumulus.
Une invention devant générer des nuages à la demande en engloutissant une tonne de pétrole à la minute. Mais cette création s'est évaporée dans un grand nuage de fumée noire.
Aujourd'hui, les projets les plus évocateurs sont ceux entraînant une modification globale du climat. La technique la plus avancée est l'injection d'aérosols dans la stratosphère, que l'on appelle aussi géo-ingénierie solaire.
L'idée est de contraindre notre système atmosphérique pour conserver notre système économique tourné vers une croissance infinie, incompatible avec notre système Terre, résume Marine de Guglielmo-Weber, chercheuse sur la sécurité climatique à l'IRSEM.
Le météorologue néerlandais Paul Crutzen a proposé en 2006 d'envoyer du soufre dans la stratosphère pour former un voile réfléchissant les rayons du soleil, afin d'abaisser la température moyenne sur Terre. L'idée est inspirée de l'importante éruption volcanique du Pinatubo.
15 juin 1991, aux Philippines, en Asie du Sud-Est. L'éruption du Pinatubo fait craindre le pire. L'impact de son panache de fumée sera planétaire.
En effet, la quantité de dioxyde de soufre dispersée fut telle qu'entre 1992 et 1993, les scientifiques ont observé une baisse de 0,4 degrés des températures moyennes sur Terre. Et si on imitait les volcans en lâchant massivement ce même composé chimique afin d'agir sur le thermomètre ? Des chercheurs étudient actuellement cette idée, mais les risques sont nombreux.
Il faudrait notamment se mettre d'accord sur une température mondiale. Est-ce que l'on baisse de 1 ou 2 degrés ? Les intérêts divergent entre les pays, comme l'explique Slimane Becky, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Atmosphère et Observation Spatiale. On ne peut pas voir la géo-ingénierie comme un thermostat, et les rétroactions sont compliquées à quantifier. Nous savons déjà que la géo-ingénierie solaire devrait probablement impacter la circulation et l'intensité des moussons. Cela concerne donc plusieurs milliards de personnes en Asie. Sur ces questions de la ressource en eau, il pourrait y avoir des effets conséquents avec des gagnants et des perdants.
Les risques sont en effet méconnus. Il y aura toujours une part d'incertitude, concède Suzanne Bohr, chercheuse en climatologie à Météo France. Mais rassurez-vous, la géo-ingénierie solaire est encore loin d'être une réalité, comme le souligne Slimane Becky. Il y a des projets dans les tuyaux, mais je n'ai jamais rien vu de sérieusement avancé.
4 years ago, with $100 million at stake.
Trouver des solutions simples à un problème complexe ne pouvait qu'attirer Elon Musk, qui a lancé en 2021 les XPRIZE Carbon Removal. L'objectif est de récompenser des projets qui parviendraient à éliminer 10 milliards de tonnes de CO2 par an d'ici 2050 afin de rééquilibrer le cycle du carbone de la Terre.
To meaningfully tackle climate change.
Pour exemple, Mati Carbone a reçu $50 millions pour son programme d'altération forcée de roches. La journaliste Marion Kwan a enquêté pour La Brèche sur cette technique.
L'altération forcée de roche, qui est une technique de géo-ingénierie qui se développe énormément depuis à peu près 15 ans, même plutôt 10 ans d'ailleurs. C'est un processus qui est naturel, le fait que les roches volcaniques, en se dégradant, elles vont réagir avec le CO2 de l'atmosphère et avec l'eau. Et en fait, elles vont se transformer en ions bicarbonates qui vont suivre le cycle de l'eau. Et à la fin, on va stocker le carbone dans les océans. Donc c'est un processus, mais qui prend des milliers et des milliers d'années. Et là, l'idée, c'est de le forcer, en fait, d'où le fait que ça s'appelle de l'altération forcée de roche. Donc, on va accélérer le processus en broyant des roches silicatées, comme par exemple le basalte, et en épandant cette petite poudre sur les champs de façon à ce qu'on ait une réaction avec le CO2 de l'eau et un stockage in fine en suivant le cycle de l'eau dans l'océan.
Les entreprises qui développent cette technique s'appuient sur deux types d'arguments. D'une part, l'amélioration de la fertilité des sols et d'autre part, la commercialisation de crédits carbone.
Quelles sont les grandes entreprises aujourd'hui qui ont besoin de décarboner ? C'est les géants de la tech avec beaucoup d'argent à mettre à dispo. Et donc, on a commencé à avoir des partenariats qui se sont noués entre ces petites sociétés qui proposent de l'altération forcée de roche et des géants comme Microsoft, quoi. Et se pose aussi la question combien, in fine, de CO2 on va réellement séquestrer. Puisque, en fait, la promesse qui est faite, c'est de dire vous allez obtenir plein de crédits carbone. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple de mesurer combien de tonnes équivalent CO2 on va stocker, puisqu'on accélère un processus qui prend des milliers d'années, mais n'empêche que ça va quand même prendre des dizaines d'années, dans tous les cas, plusieurs années, sachant que l'efficacité du processus, elle est dépendante des conditions de sol, de l'humidité, de la taille des particules, de l'activité biologique, etc.
Le manque d'études sanitaires autour de ces techniques interpelle aussi le journaliste Ivan Lokvenov qui a travaillé sur ce dossier.
Comme Marion l'a dit, il y a des startups qui se mobilisent pour offrir des solutions de géo-ingénierie, mais personne ne va mettre beaucoup d'argent sur comprendre les effets de ces techniques-là.
L'agriculture subit en première ligne les effets du dérèglement climatique. C'est dans ce secteur que le déploiement des techniques de géo-ingénierie est le plus avancé, avec pour premier objectif éviter la grêle.
L'ensemencement des nuages, c'est une technique qui est mise en place depuis les années 50. Le principe, c'est qu'on va diffuser un peu lentement dans l'atmosphère pendant plusieurs heures de l'iodure d'argent. On compte à peu près 1000 cheminées dans le pays qui sont gérées par une association d'agriculteurs qui s'appelle l'ANELFA, l'Association Nationale d'Études et de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques. L'idée, c'est que quand les grêlons ils se créent dans un nuage, ça se cristallise autour d'une petite boule, quoi. Et en fait, en ajoutant ces iodures d'argent, on multiplie le nombre de petits foyers de cristallisation, et donc à la fin, les grêlons, quand ils tombent, ils sont plus petits, voire parfois ils disparaissent même avant de tomber au sol en fondant.
Que dire de l'efficacité de cette technique ?
Ce qui est problématique, c'est qu'on ne sait pas vraiment quel est l'effet réel de cette technologie, en fait. Il y a quelques comparaisons qui montrent que ça pourrait avoir un effet, mais en fait, comme les orages ne sont jamais les mêmes, comme les conditions de vent, comme la localisation de l'orage n'est pas la même, on a du mal à avoir un vrai résultat scientifique pour dire oui, ça a une efficacité.
Pendant ce temps, Donald Trump nous dit que le climat va se refroidir, vous allez voir. Dans la droite ligne du climato-scepticisme, la géo-ingénierie suscite de nombreux fantasmes. C'est ce qu'a analysé la journaliste Elodie Potente.
L'exemple qui m'a le plus marqué, donc c'est un tweet de Marjorie Taylor Greene, qui est une congresswoman aux États-Unis, élue de Géorgie, pro-Trump. Et donc, pendant les ouragans Milton et Helene en Floride en octobre 2024, donc soit un mois avant les élections présidentielles aux États-Unis, elle a tweeté que, évidemment, ils peuvent contrôler la météo. Et donc, il, c'est le gouvernement Biden en poste à ce moment-là. Et ce que ça a provoqué dans la sphère complotiste, notamment sur X, c'est que les gens ont commencé à dire, si ça se trouve, ces ouragans-là sont pour empêcher les électeurs et électrices de Floride de voter pour Trump. Et ce qui, en fait, part d'un tweet qui est ultra complotiste, mais qui parle pas du tout de l'élection présidentielle, en fait, on arrive vite à, oui, ça met en péril la démocratie. Et ce tunnel, en fait, complotiste, moi, m'a beaucoup marqué.
Il y a donc un risque d'utilisation politique de ces techniques, bien qu'elles ne soient pas du tout à un stade avancé.
Le plus grand fantasme sur la géo-ingénierie, d'après les personnes que j'ai interviewées, c'est qu'on serait très avancé dans les technologies développées par rapport à la géo-ingénierie, alors qu'en fait, on est quand même plutôt dans des petites technologies qui sont aux prémices, qui sont testées, mais qui ne sont pas capables de modifier la météo ou le climat d'une façon à grande échelle, en fait. Et pour moi, le deuxième fantasme, ça serait que l'avancée de ces technologies serait cachée par les États qui auraient des programmes secrets, alors qu'en fait, quand on regarde dans les projets de recherche, etc., de géo-ingénierie ou de développement, on voit que c'est plutôt des entreprises privées qui développent ces technologies et pas forcément les États.
Pour Marine de Guglielmo-Weber, la géo-ingénierie a tout d'une fuite en avant. Tous les efforts financiers de promotion de la géo-ingénierie devraient être fléchés vers ce que l'on maîtrise, la décarbonation et la restauration des écosystèmes. Nous devrions plutôt changer notre manière d'habiter la planète.
On pourrait considérer qu'à grande échelle, finalement, des forêts, des haies, des mares, des cours d'eau, des zones humides, tout ça, c'est aussi des choses qui stockent du carbone, qui peuvent réguler la température, qui peuvent limiter l'ensoleillement, etc. Et là, il y a tout un champ qui reste à explorer.
En attendant, comme le souligne Sophia Cabej, chercheuse associée à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, plus on continue à émettre, plus on risque de dépendre de ces techniques.
C'était les autres voix de la presse avec Curseur et le journal La Brèche. On se retrouve en septembre prochain sur votre radio FM préférée. D'ici là,
on va s'interroger ton stylo.